Père Philippe court sur le sacerdoce du Christ, le 10 novembre 86, Rimont.
Manière selon les trois misères du peuple d'Israël. Oui, selon la miséricorde, le sacerdoce peut s'exprimer très différemment. Mais c'est toujours la misère, la plus grande du monde dans lequel on vit, que le sacerdoce va s'appliquer. Je crois que quand on regarde les trois gestes de miséricorde de l'agneau, c'est bien les trois grandes misères du peuple d'Israël. La misère au point de vue de l'amour. La misère au point de vue de l'adoration. La misère au point de vue de la doctrine. Trois misères. Les trois lézardes, si vous aimez mieux. Parce que ça, c'est important, parce que ça montre toute la souplesse du sacerdoce du Christ. Les misères du monde changent. Les misères de notre monde d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les misères du monde du 18e siècle, ni du 17e, ni du 16e, et ainsi de suite. Le monde est toujours misérable, mais ces misères changent. Et donc la physionomie de la miséricorde du Christ change. Vous voyez, quand on dit, parce que ça a été dit, il faut que la physionomie du prêtre change. Il y a une physionomie du prêtre, curé d'Ars. Il y a une physionomie du prêtre, Prado. Hein? Je prends exprès. Il y a des physionomies du prêtre différentes. Ils ne sont pas les mêmes. C'est très juste au niveau de la miséricorde descriptive. Mais c'est toujours la même miséricorde. Il doit toujours regarder les trois dimensions de l'homme. Parce que je crois que l'évangile a quelque chose de typique, irremplaçable. L'évangile reste l'évangile qui nous est donné dans un aspect, pas seulement de telle époque. Le Christ est venu à telle époque, c'est très vrai, mais c'est typique. Puisque c'est révélé comme la dimension d'amour. Donc toujours, on essaiera de découvrir cette triple misère. Misère dans l'ordre de l'amour, misère dans l'ordre de l'adoration, donc l'attitude religieuse, misère du côté de l'intelligence, de la doctrine. Et la miséricorde conduit à l'amour. Le sacerdoce du Christ regarde la misère, mais plus profondément, le sacerdoce du Christ est un sacerdoce d'amour, c'est le sacerdoce de l'époux. Et vous voyez le regard de l'époux sur l'épouse. La femme, l'enfant et l'homme. C'est bien la dimension concrète de l'homme, ça. L'homme, dans le langage concret de l'écriture, c'est la femme, l'enfant et l'homme. La femme, typiquement, c'est la Samaritaine. Et la femme que le Christ regarde comme époux. On ne montre pas ici le cantique des cantiques. Il est en deuil. Et c'est la Samaritaine. L'enfant, c'est l'enfant qui agonise. L'enfant n'est jamais autant qu'enfant que quand il agonise. On ne connaît l'enfant que quand il agonise. On ne connaît la femme que quand elle est la Samaritaine. Et l'homme, on le connaît pleinement que quand il est infirme à la piscine de Bethsaida. Je crois que c'est pour nous faire comprendre l'amour dans ce qu'il a de plus pur. L'amour jaloux d'époux dans ce qu'il a de plus pur. Qui dépasse le conditionnement le plus terrible qui soit, les trois situations limites. La situation limite de la femme, c'est bien la Samaritaine. La situation limite de l'enfant, c'est l'enfant qui agonise. La situation limite de l'homme, c'est l'infirme à la piscine de Bethsaida. C'est quand même très curieux. Les trois situations limites. Les trois situations limites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le moment où le conditionnement est tellement fort que la finalité disparaît. C'est à ce moment-là le regard de l'époux. samaritaine. Vous ne pouvez pas penser une situation limite plus terrible que l'enfant qui agonise. La situation limite de l'enfant, c'est d'agoniser. Quand on a vu un petit gosse qui agonise, c'est effrayant. Parce qu'un enfant, c'est une promesse de vie. Tandis qu'un enfant qui agonise, très bien, et qui s'ouvre en agonisant. Et on ne sait pas où il s'ouvre. On doit deviner. Situation limite de l'enfant qui agonise. Ce que Camus a très bien saisi. Dans la peste, l'innocent, l'enfant. Et c'est dans l'évangile, c'est pour ça que c'est très beau ces choses-là. Et situation limite de l'homme, celui qui ne peut plus travailler. L'homme n'est parfaitement homme que quand il travaille. La dignité de l'homme dans le travail. Et quand il est réduit à cet état d'infirme, à la piscine de Bethsaida, dans un milieu qui n'en est pas un, qui l'étouffe complètement. La communauté de Bethsaida, vous savez, hein, c'est rien du tout. Les difficultés d'une communauté comparativement à celle-là, il faut de temps en temps dire ça. Et c'est la communauté que Jésus visite. C'est celle de Bethsaida. Alors nous, très bien, on n'est pas encore là. La communauté de Bethsaida, c'est quand justement tout est insupportable parce que tout le monde passe devant vous en vous crachant au visage et en vous laissant dans votre misère. C'est très extraordinaire ces trois situations limites. Mais c'est là on voit que la philosophie aide à comprendre l'évangile. Jaspers au service de l'évangile, c'est pas mal. Hein. Et Jaspers sans le savoir, par la situation limite, nous fait comprendre le regard de l'époux. Moi je trouve ça extraordinaire. Contraste. Vous ne pouvez comprendre parfaitement le regard de Jésus, époux, comme prêtre, qu'à travers les trois situations limites, c'est-à-dire la situation limite de l'homme. Et l'homme concrètement, c'est pas l'humanité. L'homme concrètement, c'est la femme, c'est l'enfant et c'est l'homme. Et les trois situations limites. Et alors, le dépassement de ces trois situations limites par la ferveur de l'amour. Lui-même que dans son jaillissement de ferveur. Est-ce que c'est pas ça l'époux? Quand le choix est un jaillissement d'amour, le choix n'est pas une conclusion dans l'ordre de l'amour, hein. C'est un sommet. Et donc c'est un jaillissement d'amour. Le choix n'est qu'une conclusion que dans les retraites, l'élection. Alors, ça, c'est un choix, c'est la conclusion de la retraite. On choisit. Tandis que le vrai choix, quand il vient du Saint-Esprit, c'est un sommet dans l'amour et le jaillissement le plus parfait. Je ne veux pas dire que les retraites d'élection ne sont pas sous de l'Esprit-Saint, mais il faut faire grande attention. Le choix n'est pas une déduction, une délibération. Oui, pour les questions économiques. Non, pour les questions de personne. Tout l'équivoque du choix. On a vu ça en éthique. Le choix à l'égard d'un moyen, le choix à l'égard d'une personne. Le choix à l'égard d'un moyen, oui, ça peut être une conclusion d'une délibération. Le choix à l'égard d'une personne, c'est un sommet. Choisis quelqu'un, je te choisis comme ami. Et puis vous dites après, oui, c'est le résultat d'une délibération. Là, vous avez très très bien compris. Et c'est la logique qui vient être là pour comprendre. situation limite. Le cœur du tout petit enfant au-delà de ce masque de l'agonie. Le masque de la souffrance d'un enfant qui souffre, qui est en agonie. Le cœur de l'homme qui n'en peut plus. Au-delà de ce masque, de cette situation limite, de celui qui est à la piscine de Bethsaida. Et enfin, alors, on comprend que cet amour se traduit, qui se traduit dans la miséricorde, prend sa source dans le Fils relié au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Alors, posez-vous la question, si ces trois dimensions du sacerdoce du Christ, j'insiste un peu parce que c'est quand même le premier moment de cette réflexion. Sacerdoce de miséricorde, sacerdoce de choix d'amour jaloux, donc de choix, et d'un choix jaloux à l'égard de la situation limite de l'homme.
Profonde de l'écriture.
Nous avons chapitre 6 dans lequel nous allons entrer pour essayer de comprendre toujours le mystère du sacerdoce. Alors là, c'est le pain. Je vous ai dit. Nous avons le pain. Nous avons ensuite, si je suis attentif à la ponctuation que nous avons donnée du chapitre 6 au chapitre 12, hein, puisque toujours, lors de l'évangile de Saint Jean, se ponctue à travers les repas. On comprend, Saint Jean a beaucoup aimé le repas de l'Eucharistie, donc ça a éclairé tous les autres repas. Nous avons le pain, nous avons Jésus qui se dit la lumière. Et Jésus qui se dit le Fils, le Je suis. Si le Père donne le pain, le Fils donnera le pain. Et le pain que moi je donnerai. C'est bien. Création, recréation à tout. C'est toujours présent. Le Père donne le pain. Et la manne, c'est le Père qui donne le pain. Le vrai pain, c'est Jésus lui-même. Et Jésus continue de faire ce que le Père fait. Donc, vous retrouvez les trois aspects.
Dedans, qui sont expliqués dans ce grand discours.
bonne vie et les gestes d'une bonne vie. Après le mystère du pain, chapitre 6, je vous ai dit, ce chapitre 6, il est d'une richesse inouïe. Vous savez, comme selon la méthode structuraliste, quand la méthode structuraliste fait d'exégèse, il faut lire de temps en temps un livre exégétique dans la méthode structuraliste. Par rapport à ça, j'en ai lu un. Parce que ça m'intéressait. C'est intéressant. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce qui a mis ça. Alors, il dit cette chose, j'ai retenu, parce que c'est. On prend le haut et le bas, vous voyez. Dans Saint-Jean, le haut et le bas. C'est vrai, il y a des descentes et des montées. C'est pas vrai. Il y a des descentes et des montées dans tout Saint-Jean. Alors, dans cette méthode structuraliste, il arrive à dire que la descente la plus basse, c'est le chapitre 6. Qu'il descend jusqu'à être peint, le non-vivant. Et la méthode par le fait même la plus haute, le pain donné, la résurrection. Donc, le chapitre 6 unit la plus grande miséricorde. On est miséricordieux quand on se met à la dimension, à la hauteur de celui à qui on donne le pain. Donc il descend le plus bas, et en même temps il monte le plus haut, la résurrection. Puisque le pain conduit à la résurrection, l'Eucharistie conduit à la résurrection. Il n'y a plus rien après le pain, plus rien. C'est le sacrement par excellence. La plus grande pauvreté de Jésus. Et donc, ça exprime la plus grande pauvreté de son sacerdoce. Vous voyez, miséricorde et pauvreté se tiennent. Mais il faut comprendre en creux la miséricorde. Et on la comprend par le pain. Et le structuralisme a du bon. Parce qu'il pourrait le découvrir indépendamment du structuralisme. Pas le structuraliste qui l'a fait découvrir, parce qu'on le découvre tout simplement par le fait que le serviteur par excellence, c'est le pain. Ça va plus loin que le structuralisme, en montrant que le serviteur par excellence, c'est le pain, parce que le pain, il est entièrement donné. C'est l'aliment. L'aliment est tout entier relatif au vivant. Ça fait partie de la philosophie du vivant, du Périplugas. La philosophie du vivant. Le vivant est totalement relatif. Je veux dire, l'aliment est totalement relatif au vivant. Et vous caractérisez le vivant en fonction de ses aliments. Pas entièrement. Herbivore, carnivore. Et nous sommes le propre du croyant. C'est de se nourrir de l'Eucharistie. Ça caractérise le vivant. Et ça caractérise Jésus qui descend le plus bas qui soit en étant serviteur comme l'aliment. C'est-à-dire celui qui se désarme totalement. Il y avait Dieu désarmé. Qui se désarme dans la pauvreté de l'aliment, sous la forme de la pauvreté de l'aliment, puisque l'aliment est totalement relatif à celui qui s'en sert, à celui qui en use, totalement relatif. Alors ça, c'est fait comprendre la pauvreté radicale du Christ, totalement relatif au vivant. Donc à chacun d'entre nous. Ça fait comprendre la pauvreté du sacerdoce du Christ. Le sacerdoce du Christ réclame la pauvreté et ne peut s'exercer dans la pauvreté. Je crois que ça c'est le propre du sacerdoce du Christ. Parce que c'est le sacerdoce qui fait que le Christ est donné comme aliment. Et ça va jusque-là. Se donner substantiellement, sans rien garder pour lui. Je crois que c'est bien cela qui fait comprendre la plus grande pauvreté de l'amour et la dépendance absolue de Jésus à l'égard de l'Esprit Saint dans son sacerdoce d'amour. Sans voix très très bien. Il désire que Jésus règne. Ça, c'est au chapitre 7 qu'on voit le mieux. C'est pour la fête des tentes. La fête de la récolte. C'est rien, les vins. Les deux sont appliqués et spécialement, évidemment. Le point de vue de la source et de son sein courant des fleuves d'eau vive. Le fleuve d'eau vive, c'est le sang. C'est le sang du Christ. C'est l'amour donné dans cette surabondance. D'autre part, la lutte interne qui fait cette ruse et cette stratégie pour monter à Jérusalem. Et quand il est à Jérusalem, de nouveau la lutte. Est tout à fait différente. Une lutte qui va aussi très forte. Alors, on peut dire que ce chapitre 7 est complémentaire du chapitre 6. Il n'y a pas de nouvelle affirmation, c'est ça que ce qui m'intéresse ici. Il n'y a pas de nouvelle affirmation. De ce qu'est Jésus. Donc c'est toujours sous la lumière du pain. Jésus ne dit jamais je suis le vin. Il dit je suis celui qui a soif qu'il vienne à moi. Donc il exprime qu'il est source. Une source abyssale. La blessure du cœur. Tous les sacrements. Proviennent de là. Alors je crois qu'on peut le mettre là comme complémentaire pour essayer de faire mieux comprendre ce que représente ce mystère de Jésus qui se donne doublement par le pain et le vin. Et c'est vrai que là, on voit bien qu'il se donne doublement. La manière, alors ce serait intéressant de regarder tous les détails. La manière dont il se donne au chapitre 6 et la manière dont il se donne au chapitre 7. La manière dont il se donne au chapitre 6 à travers le miracle de la multiplication des pains. Et tout se passe dans une joie extrême. Mais cette joie se gâte par un désir de possession. Quand Jésus a donné le petit pain, les petits pains frais, autant qu'ils en voulaient, tous ceux qui se sont nourris de ces petits pains frais, des poissons, n'ont eu qu'un seul désir, c'est de posséder Jésus, pour avoir tous les jours auprès d'eux la source qui donnera le pain sans contre-maille. Et c'est pour ça qu'on veut le faire roi. Et là, c'est le suavitaire. Jésus a agi avec suavité, avec force, mais suavité. Et Jésus, immédiatement, se sépare dès qu'il voit l'accaparement. Jésus ne peut pas supporter un accaparement. Non pas parce que il y a chez lui une espèce d'autonomie extraordinaire. Non, par miséricorde. nous voyons bien cette ligne d'aspect du pain. On peut dire que le chapitre 7, c'est autre chose, c'est complémentaire. La lutte, elle est dès le début. Alors que dans le chapitre 6, elle n'est pas le début, elle est au sommet. C'est après avoir vécu toute la journée, après avoir donné le pain, qu'il y a un mauvais usage des dons de Dieu. Et ce mauvais usage des dons de Dieu implique un accaparement que Jésus ne peut pas souffrir. Et Jésus se sépare. Et on le voit bien, ça, c'est dit avec suffisamment de netteté. Tandis que chapitre 7, la division vient dès le point de départ. Jésus ne peut pas accepter le compromis. Ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Nul n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ces choses, manifeste-toi. C'est net. Et le langage du démon au désert. Et c'est le langage des suppôts du démon au désert. Pas au désert, mais en pleine vie apostolique. Ouais. C'est la tentation de la gloire. Le sacerdoce du Christ, parce que c'est justement le pain, le point de vue de la pauvreté, vous comprenez très bien, c'est le dépassement de gloire humaine, parce que sacerdoce de pauvre, ou sacerdoce dans la pauvreté, c'est plus juste, sacerdoce dans la pauvreté, et donc une suppression de la gloire, mais la grande tentation c'est la gloire. Ça, c'est sûr, c'est la grande tentation. Et c'est la grande tentation à l'égard du sacerdoce qui réalise une œuvre. Mais on risque toujours de se glorifier de l'œuvre qu'on fait. Quand on n'a pas d'œuvre, on ne se glorifie pas. C'est à travers l'œuvre qu'on essaie de se glorifier. Et en se glorifiant, on fait que l'œuvre est à nous, l'accaparement, juste l'inverse de la pauvreté. Et c'est la pauvreté qui nous sauve de toute vaine gloire et de toute recherche de gloire. Alors ça, c'est aussi un aspect très important dans le sacerdoce de Jésus. Jésus ne fait pas son œuvre. Et ça fait partie du sacerdoce de Jésus parce que c'est le sacerdoce du Fils qui doit agir dans cette pauvreté souveraine. Il y a un aspect de pauvreté qui me semble très essentiel à ce qui nous est révélé là par rapport au sacerdoce de Jésus. Jésus donne le pain et il se donne lui-même. Il se donne à ceux qui sont pauvres. Avec le chapitre 7, on veut encore que Jésus se glorifie. Alors on brise ça. Jésus brise ça, il ne veut pas. Il ne veut pas monter à Jérusalem pour sa gloire. Et pourtant, il monte à Jérusalem pour manifester ce qu'il est. Parce que quelquefois, vous voyez, ça arrive, pour ne pas tomber dans la tentation de la gloire, je ne ferai jamais rien. Tentation merveilleuse. Faut ne pas tomber dans la gloire, au moins pas de danger. Dès que je fais quelque chose de bien, tout de suite, hein, ça pousse. La petite gloire, c'est pas si mal. Après tout, je peux faire aussi bien que les autres. Et même mieux, on ne le dit pas encore. Demain, je le ferai mieux. Allez, la petite gloire qui pousse. Et alors, pour éviter ça, on dit, on fait plus rien. circoncision et vous la pratiquez, et vous la pratiquez un sabbat, alors qu'un homme reçoit la circoncision un sabbat, pour que ne soit pas violée la loi de Moïse, vous vous arrêtez contre moi. Vous vous arrêtez contre moi parce que j'ai rendu la santé à un homme. C'est jugé sur l'apparence, mais jugé sur la justice. Vous voyez, tout tourne par rapport à la gloire humaine et divine. La gloire humaine, c'est jugé selon les apparences. La gloire divine, c'est jugé en vérité. Et le dernier jour, Jésus annonce là, qu'il nous montre cette chose mystérieuse, qu'il est source, pain et source. Le plus pauvre, c'est celui qui est la source. Le pauvre, c'est celui qui est la source.